Bien le bonjour, il est effectivement un peu plus de 10h10. On est aujourd'hui dans la 12e émission de ce 10-10, de ces 10-10 consacrés au mois de l'économie sociale et solidaire, les associations, les coopératives, les mutuelles qui font vivre plein de services que l'on consomme ou que l'on ou auxquels on participe et qui seraient sans doute bien en difficulté si demain les menaces qui pèsent sur elles s'exerçaient financièrement. J'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup plu et dont on parlera peut-être demain. L'économie capitaliste a ses médias, Bolloré. L'économie sociale et solidaire a ses médias. Les radios associatives, je trouve que c'est une très très belle phrase. Et justement, aujourd'hui, on va parler médias avec Jean-Marie Dine, qui est le patron. Il va nous dire exactement sa place dans le système qu'il anime. C'est Alter Midi, un site d'information pas comme les autres. Bonjour Jean-Marie Dine.
Bonjour.
Alors, Alter Midi, une association, une coopérative, une mutuelle?
Alors, déjà je modifie le terme de patron.
Voilà, je l'attendais celle-là.
Disons que je suis directeur de publication d'Alter Midi, donc qui s'inscrit dans l'ESS à travers un cadre associatif. Mais dans l'objet même des statuts, il y a l'idée de se constituer quand on en aura les moyens et quand on en a trouvé les partenaires suffisants, je dirais, en SIC ou en SCOP. C'est-à-dire qu'au départ, ça part d'un collectif de journalistes qui travaillaient dans la presse, notamment quotidienne, et qui souhaitaient redonner de la valeur à leur métier. Et donc, on en est venu à l'idée de créer un média et d'ouvrir ce média à la société civile. Donc, dans notre ADN, il y a cette idée de partager à la fois la production de l'information avec des acteurs de la société civile, donc en termes éditorial, mais aussi de les faire rentrer dans la structure. La problématique de la structure, elle est un petit peu compliquée parce qu'on a du mal à équilibrer notre modèle économique. Donc, on n'en est pas encore au passage
à la SIC. J'imagine, ouais.
Mais le statut associatif fait pleinement partie de l'ESS et on est donc une petite structure de l'ESS dans les médias qui a pour utilité sociale, qui considère que l'information a une valeur d'utilité sociale.
On va parler d'Alter Midi, mais globalement, aujourd'hui, le secteur média de l'ESS, on trouve qui dedans?
Alors, je regardais des chiffres qui m'ont d'ailleurs surpris. Il semblerait qu'il y ait 28% des entreprises de presse qui partagent le statut de l'ESS. C'est des chiffres de l'ESS France. Donc, je me suis quand même interrogé sur ça parce que sans doute qu'il y a 28%, mais je suppose que c'est des petites structures, et notamment celles des médias indépendants, qui choisissent ce statut. Alors, il y a les plus connus, ça va être Alternative Économique, Reporter, Blondie Blog, qui ont une place et qui ont un rayonnement plutôt national. Ensuite, je pense qu'il y a une émergence actuellement des médias indépendants par rapport à la problématique de concentration. Je pense qu'il faut qu'on en parle aussi de cette question de la concentration qui émerge, mais qui a du mal à subsister. Mais en tout cas, dans l'esprit, le modèle de l'ESS correspond pleinement à cette émergence de médias indépendants.
Je reviens sur cette idée de faire participer le lecteur, le citoyen à la construction d'informations, c'est-à-dire qu'il il apporte sa plus-value, son regard, mais quid par rapport aux journalistes encartés qui ont une carte, donc ça veut dire une charte, une éthique. Comment le lecteur en finale voit la différence entre le journaliste et l'acteur engagé, citoyen, mais qui a forcément des partis pris?
Alors, c'est sans doute la spécificité de notre média, Alter Midi, d'intégrer des contributeurs dans le comité de rédaction, c'est-à-dire des contributeurs réguliers. On a, par exemple, dans notre comité de rédaction, une poète, on a une personne qui travaille dans le monde de la psychiatrie, on a un sociologue. Donc, participe pleinement à la réflexion quand, par exemple, on fait un numéro thématique parce qu'on est bimédia, on a un site d'information, mais on a aussi un magazine trimestriel. ils participent pleinement à la rédaction. Après, la différence, je dirais, entre le journaliste et le contributeur, elle se mixte dans notre travail. Les journalistes sont quelque part garants de ce qu'ils vont publier, et donc ils le font passer aussi aux contributeurs, ce qui fait
que... C'est pas un contrôle, mais c'est plutôt un rappel d'un cadre ou d'une éthique.
C'est ça, on est gérant quelque part du cadre, même si moi je considère qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne déjà notre comité de rédaction, les gens ont complètement intégré le fait de vérifier, hiérarchiser l'information, la sourcer, etc. Après, pour les contributeurs qui sont des contributeurs occasionnels qu'on va contacter par rapport à des dossiers ou des sujets, là, il y a un travail qui est différent, mais qui va être celui, par exemple, si on travaille avec des scientifiques, de rendre le discours plus journalistique, mais en même temps, on le donne comme une participation.
Ok. Un travail d'écriture, c'est un travail autour de l'écriture radiophonique. En l'occurrence, de l'écriture.
De presse écrite, ouais, ouais. Et d'adaptation du langage, de discussion. Et ça se passe en général sans problème. Et aussi, on a aussi un travail d'accompagnement par rapport à des citoyens qui vont témoigner de leur réalité. Et là, ça va être un travail d'accompagnement, peut-être même au niveau de l'écriture ou de l'expression des idées. Mais on considère que cet apport de la société civile valorise l'information. Par exemple, on a fait à un moment un dossier sur la violence conjugale. Nous, en tant que journalistes, on a une certaine... qu'on le veuille ou non, quand on est journaliste, on a une forme de disquette de fonctionnement. Et ben là, quand on reçoit des témoignages de gens qui témoignent de ce qui se passe au sein du domicile
du
ou
vécu.
Des choses comme ça, du vécu, ben on enrichit considérablement l'information.
Alors, restons pour l'instant, peut-être, on parlera d'Alter Midi plus spécifiquement dans un instant. Restons encore un peu sur les modèles. Aujourd'hui, on assiste à une grande concentration des médias, dont certains sont repris, si je puis dire, par quelques grands capitaines d'industrie. Cette polarisation, elle vous inquiète ?
Absolument. Là, on est dans un grand monopoly avec une concentration complètement inédite. Bon, on le rappelle, mais je pense qu'il faut toujours le rappeler, il y a 10 milliardaires qui contrôlent aujourd'hui 90% des ventes des quotidiens nationaux, 55% de l'audience télé, 40% des radios, et deux d'entre eux possèdent 50% du marché de l'édition, dont 70% de l'édition scolaire. Donc, ces gens-là reçoivent des aides publiques au même titre
que toute la presse.
Et ça devient vraiment une préoccupation démocratique. Hein.
Parce qu'ils se cachent de moins en moins de faire passer leur vision du monde.
Ah bah absolument, absolument. Il y a l'économiste Julie Cagé, je trouve que c'est intéressant de faire ce parallèle. Hein. Elle montre dans un livre qui s'appelle « Le prix de la démocratie » que 10% des plus riches effectuent 53% des dons aux partis politiques. Et sur cela, l'État leur reverse, à travers des défiscalisations, 66% de ce qu'ils donnent. Ça donne quand même la mesure de l'impact de ces milliardaires sur la démocratie. Quand on parle de la taxe Zucman ou bien des multinationales, évidemment qu'il y a une pression formidable sur l'opinion publique et dans les médias pour s'opposer à ce type de mesures, mais pour l'intérêt d'une minorité de personnes.
Et là, en ce moment, on entend beaucoup, si on écoute les médias de service public, leur inquiétude face à la volonté, au fond, de les contraindre davantage. C'est un vrai danger pour la vie démocratique qui est là en ce moment.
Ah bah, effectivement, on parle du secteur privé, mais le secteur public, l'information publique est menacée. Elle est menacée. Bon, avec pour ce qui concerne la télé, le fait que la redevance ait été abandonnée au profit d'un pourcentage de TVA qui fait que finalement cette indépendance des médias publics, elle est aujourd'hui dépendante quelque part du pouvoir
robinet,
politique.
Du pouvoir politique, oui.
Il y a ce projet de fusion qui est en train d'attirer un peu de mal, elle patine un petit peu là-dessus, mais elle le défend fortement, entre Radio France et France Télé. Ça a un impact très fort sur la qualité même de l'information.
Et de ce point de vue, les médias, j'allais dire indépendants, les médias de l'ESS, j'allais dire traditionnellement, ils sont plutôt du côté du service public. Ils font partie peut-être de cette résistance à ces médias orientés.
Oui, je dirais, parce qu'ils ont une utilité une utilité publique. C'est-à-dire que, je parle des médias indépendants, mais je pense que ça vaut aussi pour les radios locales. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont implantés sur le terrain, pardon, et qui travaillent au jour le jour sur faire remonter ce qui se passe sur le terrain,
les réalités locales. D'accord, ok, très bien. Donc, revenons un peu à Alter Midi. Quand on échangeait juste avant l'émission, vous avez dit, nous, Alter Midi, on vise un territoire large. Au fond, on travaille sur des interterritorialités. Ça veut dire quoi ?
Ça fait partie de... En fait, on essaie aussi de valoriser l'information, parce qu'on peut parler de la concentration au niveau de la presse nationale, mais elle existe aussi...
Avec la PQR
Au niveau de la presse locale. La PQR... Il n'y a pas de désert médiatique
en France,
dans les régions. Mais il y a quand même 51 titres de PQR en France. Et ces titres sont regroupés également entre
quelques grands groupes.
Entre groupes. Si on prend juste EBA, qui est propriété de la Banque Mutualiste du Crédit Mutuel, donc elle a tout le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes. 18% du tirage national. Quand EBRA décide de centraliser, par exemple, à Paris, un staff qui va s'occuper de toute l'information nationale et internationale, ça a un impact forcément sur la qualité de l'information, sur la concentration de l'information.
Alors vous parlez d'EBRA, qui est un groupe mutualiste, a priori, j'allais dire, ils font partie des gentils, si je mets des grosses guillemets, ils font partie de l'ESS, mais pour autant, ils ont aussi des logiques de rentabilité.
Ah, tout à fait, oui. C'est la question de la concentration. Après dans l'ESS, c'est une très, très grande famille. Entre une association comme la nôtre et un groupe mutuel comme EBRA, il y a un océan.
Et donc, pareil, dans la PQR, il y a aussi des groupes privés. Donc,
Il y a Ouest France aussi. EBRA et Ouest France, ils représentent 30% des tirages nationaux, ce qui est énorme. Et pour ce qui nous concerne le sud de la France, on a Nice Matin, qui a été racheté par Xavier Niel, qui est le patron, l'actionnaire principal du Monde. Entre guillemets, ce monsieur, il a aussi les réseaux free de téléphone.
Et il se veut grand défenseur des startups.
Grand défenseur des startups, et c'est aussi quelqu'un qui va vous dire, quand il y a un journaliste qui m'emmerde, j'ai trouvé la solution, je prends des parts dans le journal. Et il faut quand même souligner qu'il a y rentré dans le capital de Libération, mais il a aussi 10% des parts de Mediapart.
D'accord. Et donc ça, de votre point de vue, ça... Par exemple, Mediapart, qui est apparemment un des médias les plus libres de France, vous pensez qu'il peut être influencé par ces...
Moi, je trouve qu'ils font un travail remarquable. Mais c'est au niveau de la question du pouvoir et de l'actionnariat et de la question de l'indépendance. 10%, ce n'est pas la majorité.
Non.
Mais c'est quand même être présent.
Ok. C'est-à-dire pouvoir éventuellement dire un mot ou même sans dire un mot.
Je crois qu'il n'y a pas besoin de dire un mot.
C'est ça qui est terrible.
Mais c'est un système, c'est-à-dire que nous, si on a du mal à émerger, c'est qu'on reste indépendant, y compris par rapport, je ne vais pas du tout casser du sucre Mediapart, je suis un lecteur, j'apprécie ce qu'ils font, etc. Mediapart, c'est pareil, ils sont à Paris, c'est le seul média qui fonctionne et ils vont prendre des parts dans les petits médias indépendants type Mars Actu, etc., ils rentrent dans le capital. Quelque part, on est dans une logique qui est un peu similaire à la logique des patrons, sauf que c'est beaucoup plus indolore. Après, dans le sud, on a la Dépêche du Midi, hein, la famille Bailey. Donc eux, ils ont la région Occitanie, ils ont le Midi Libre, le Petit Bleu, la Nouvelle République des Pyrénées. Ils sont rentrés dans le capital de la Gazette de Montpellier à l'époque où la Gazette de Nîmes s'est lancée. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à l'époque, ils sont rentrés à hauteur de 33%.
La Gazette de Montpellier qui a la tentation, la volonté de devenir une SCOPE.
Tout à fait. Ben je ne sais pas, je n'ai pas pu discuter avec les actionnaires principaux, mais je suppose que c'est aussi pour se garder une certaine indépendance. Mais je dirais que dans les médias qui sont de l'ESS, il y a aussi une grande famille. Il y a une différence entre la Gazette et Alternative Économique, ouais, ou Reporter, d'un point de vue politique, notamment.
Parce qu'ils sont, là, pour le coup, on revient sur le local, aussi sous l'influence, sans le dire, des collectivités locales. On dit souvent, dans les collectivités locales, si la presse nous ennuie, on lui coupe les annonces légales.
Bah ça a marché, hein, et ça marche toujours. Après, je pense qu'il y a aussi une interdépendance, je dirais, des collectivités vis-à-vis des médias qui sont en situation monopolistique au niveau régional. Parce que si ces médias-là décident de rentrer en guerre contre un homme politique, ça risque de lui faire mal. Donc c'est un rapport qui est...
On se tient par la barbichette ?
C'est un peu ça.
Ok, sur Montpellier, on est un peu dans ces configurations
Midi libre, donc c'est la Dépêche. Après la question de la PQR, ça reste quand même, et c'est important qu'il n'y ait pas de désert médiatique au niveau régional. Ce sont des acteurs qui sont implantés depuis très longtemps. Ils ont donc une position au niveau du territoire qui permet aux acteurs de s'exprimer. Ils sont lus, peut-être de moins en moins et par un lecteur vieillissant.
Oui, je vais dire, voilà, il y a la question aussi du public. La PQR, c'est peut-être les générations d'avant, quoi.
C'est vrai que je ne vois pas un jeune de 30 ou 40 ans et encore moins...
40 ans On est encore jeune, c'est formidable.
Oui, enfin, je veux dire, au niveau des catégories d'âge, au-delà de 40 ans, je ne vois pas des gens qui peuvent lire le Midi Libre. Ils ont du mal à ce niveau-là, notamment par rapport à l'émergence
des réseaux à
refonder une place. Et donc là, ils se font un peu tirer la bourre par les médias indépendants.
Les réseaux sociaux, on y revient peut-être d'un mot, là. C'est, voilà, il y a 10 ans, on faisait de la politique autrement, on allait chercher son information autrement. Aujourd'hui, on est tenté de regarder son téléphone, pas H24, mais en tout cas, on scrolle dessus de plus en plus.
Ça, c'est certain. Nous-mêmes, par rapport à notre site, on a un site donc d'actu, hein, puisqu'on produit des articles tous les jours. Si on ne le fait pas savoir par les réseaux sociaux, on perd, 50-60% du lectorat. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris forcément la place des médias comme on le craignait à une époque, mais ils sont incontournables.
Parce qu'ils alertent sur le fait qu'il y a de l'actualité quelque part.
Parce que les gens, comme vous dites, ils vont d'abord aller chercher leur info à travers les réseaux sociaux.
Et donc, un risque majeur pour la démocratie. On entend beaucoup de propos en ce moment sur le fait qu'il faille interdire l'accès à un certain nombre de réseaux aux plus jeunes.
Alors, il y a cette problématique. Il y a eu pour les médias de presse écrite traditionnels, il y a eu la problématique dans le temps des gratuits. Ils se sont lancés dans les gratuits, ils se sont plantés, etc. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est effectivement l'émergence des GAFAM. Et c'est un problème aussi économique, puisque le marché publicitaire de la presse
n'est pas extensible,
réduit de jour en jour par rapport au marché des GAFAM. Donc là-dessus, il y a des accords qui sont en train de se faire, notamment au niveau du droit voisin, pour qu'il y ait un reversement de ces structures GAFAM aux éditeurs de presse. C'est en cours, c'est une bonne chose. Bon, le droit européen aussi le permet. Après, si on regarde un peu plus en détail sur la question de la répartition du droit voisin, bon, ce sont les éditeurs qui touchent le pourcentage et la redistribution qui devrait revenir aux journalistes, elle est infime.
C'est un peu comme les droits d'auteur pour la musique.
Tout à fait.
On y revient dans quelques instants, on va passer quelques notes de musique et puis on va revenir clairement sur Alter Midi, tout ce qui se passe, et on reparle d'interterritorialité parce que je crois que c'est un sujet que nous avons en commun. De retour dans ce 10-10 consacré aux médias, dans le cadre de nos émissions sur l'économie sociale et solidaire, je suis avec Jean-Marie Dean, le rédacteur en chef d'Alter Midi. Alors là, on va revenir sur Alter Midi, donc une communauté de journalistes, une communauté de rédacteurs, vous décidez ensemble d'un certain nombre de numéros, vous avez plusieurs numéros papier par an, et on va d'ailleurs tout de suite en dire un mot, vous allez en boucler un bientôt, et il y a un appel aux dons qui est lancé, parce que c'est difficile d'éditer un document papier sans un budget.
Ben là, c'est sûr qu'on traverse un moment difficile, hein, et on n'a pas les moyens de sortir notre prochain numéro magazine qui est bouclé, dont la thématique est une question qui est « Où en est le collectif ?»
Donc, en même temps, un thème d'actualité.
Tout à fait. Et là, on a effectivement des problèmes pour le financer. Alors, ces problèmes, à quoi ils sont dus ? Ils sont dus... Alors, précisons que pour ce qui concerne Alter Midi, on est indépendant, pardon, mais on ne refuse pas la publicité. Donc, on a des annonceurs, qu'ils soient des collectivités ou des acteurs culturels ou des acteurs de l'ESS, avec cependant cette volonté marquée d'indépendance. C'est-à-dire que généralement, quand vous allez voir une collectivité pour leur demander de la publicité, il y a un rapport qui se fait... qui est très politique. Nous, on affirme clairement qu'on est un média indépendant et que c'est aussi de la responsabilité des collectivités publiques de soutenir les médias indépendants par rapport à simplement la question de la démocratie. Donc, on ne fait pas de concession, et du fait qu'on ne fait pas de concession, on est dans une incertitude permanente.
Bien
C'est-à-dire,
sûr.
De temps en temps, les collectivités prennent une publicité, mais... on n'a jamais une vision sur le prochain numéro, etc. Donc,
chaque numéro est une aventure et un tour de table à constituer.
C'est ça.
OK.
C'est ça.
Bah là, peut-être que vous pouvez donner l'adresse si
on a fait un appel aux dons pour sortir le prochain numéro. Il nous manque 5 000 euros. C'est pas rien. Je sais que tout le monde est dans des conditions difficiles au niveau financier, notamment, je suppose, nos lecteurs. Mais s'il y a une possibilité de donner 5, 10 euros, 20 euros ou plus si c'est possible, ça permettra de sortir ce numéro qui, pour le moment, il est en stand-by.
Okay.
Donc, on peut aller sur le site altermidi.org et faire un don avec les remerciements pour ceux qui nous soutiennent. Et ceux qui ne peuvent pas nous soutenir peuvent en parler aussi, parce que je comprends très bien qu'il y ait des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, comme nous du reste.
Alors, revenons sur le média en lui-même et la question de l'interterritorialité. Là aussi, encore une fois, voilà, nous, on est à Montpellier, mais on sait aujourd'hui que, par exemple, la collectivité métropole de Montpellier est une petite collectivité, nonobstant le fait qu'elle ait un peu plus de 500 000 habitants, mais 31 communes, c'est tout petit. Et quand on parle d'interterritorialité, on se dit, bah, voilà, le bassin de vie, alors bon, j'allais dire pour une radio, le bassin d'audience ou le bassin de lectorat, c'est bien au-delà des 31 communes. Est-ce que cette interterritorialité, vous arrivez à la faire à la visualiser, à la rendre lisible par vos lecteurs?
Alors, je pense que par les lecteurs, oui, parce que, bon, en gros, on a une zone de diffusion qui va de Toulouse à Marseille,
okay.
En passant par Montpellier, et sans oublier le monde rural. Et ça, c'est important.
C'est-à-dire
parce que dès
la,
le début,
la Cévenne, les Cévennes
Les Cévennes et tout ce qui peut se passer dans l'arrière-pays, parce qu'il y a, il y a aussi un déficit d'informations en dehors du monde urbain qui est quand même très important. Pour revenir rapidement à la question de la presse quotidienne régionale, on a 6000 journalistes qui sont employés dans la presse quotidienne régionale et on a 25 000 correspondants. C'est-à-dire que la majorité de l'information locale
qui remonte.
Est produite par des correspondants qui ne sont pas des journalistes, donc qui n'ont pas forcément l'attitude journalistique, qui vont faire leur travail et dans des conditions de précarité insensées. Mais ça veut dire aussi quand même que la qualité de l'information, elle se limite souvent à un compte-rendu de conseil municipal. Donc la question de la ruralité, de l'information en ruralité, elle est très importante.
Et de l'analyse de la complexité des situations, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous caractérise, c'est un monde d'une complexité rare, et que derrière les yaka-faucons, il y a souvent des choses très complexes qui se mettent en place, qu'il faut expliquer en permanence, parce que le citoyen paye ses impôts quand il en paye, mais il ne sait pas forcément comment ça marche.
D'autant plus qu'on est dans des régions où le populisme marque des points. Et donc la question d'expliciter, de rentrer en contact avec les gens, même si c'est pas pour faire des grandes conférences, etc., mais de donner des points de repère, elle est primordiale aujourd'hui par rapport aux enjeux qui nous menacent.
C'est de l'éducation, j'allais dire de l'éducation populaire, oui.
Oui, tout à fait, ça prend cette forme-là. D'ailleurs, dans le modèle économique d'Intermédie, qui n'est pas encore équilibré, on en a parlé tout à l'heure, il y avait l'idée quand même que la conscience qu'un média d'information, la question d'éditer, ne peut pas s'équilibrer aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je parle des soutiens avec les subventions à la presse, dont on ne bénéficie pas alors qu'on existe depuis 5 ans, qu'on a fait 16 numéros. Là aussi, il y a une forme d'incompréhension par rapport notamment au ministère de la Culture. Et peut-être que cette incompréhension, elle rejoint un petit peu la question que vous posiez sur la question de l'interterritorialité, dans la mesure où ça faisait partie aussi de notre axe fondateur de travailler au-delà des frontières administratives. Et donc, à partir de là, on sort de l'organisation administrative et donc on ne rentre plus dans les cases. Et du coup, on nous dit, on ne comprend pas ce que vous faites, vous n'êtes pas local, parce que le local, ça veut dire travailler d'une certaine façon, produire de l'information d'une certaine façon, est souvent la même. Donc là, il y a une problématique. Je ne sais pas combien de temps il faut en France pour se faire reconnaître. Ce n'est pas pour avoir des 1000 et des 100, hein, mais je veux dire, aujourd'hui, on est encore tous bénévoles. Les subventions qu'on demande, c'est pour pouvoir avoir un ou deux salariés pour pouvoir bien faire notre travail. Et là, on arrive au bout. Quand on n'arrive pas à sortir notre prochain numéro, on arrive au bout. Donc, cette problématique, et l'intérêt aussi de travailler en interterritorialité, c'est d'avoir un regard différent, de prendre du recul. Quand on est sur une métropole, que ce soit Toulouse, Marseille ou Montpellier, on est dans une forme d'écosystème où la presse locale,
elle s'autosuffit.
Je dirais pas qu'elle s'autosuffit, mais elle va avoir un rapport au pouvoir, qu'il soit économique ou politique, qui est un petit peu biaisé, dans la mesure où si elle perd ses sources. C'est-à-dire que si vous faites un papier à charge contre la mairie ou bien contre, je sais pas, le MEDEF local, vous perdez la capacité ensuite de travailler. Donc là, il y a une problématique au niveau de la presse locale. Donc le fait d'être en transversal comme ça permet de pouvoir être indépendant par rapport à cela. Ça permet aussi pour les lecteurs de comprendre des problématiques qui peuvent être similaires d'un territoire à l'autre, qui peuvent être résolues de façon différente. Donc ça présente beaucoup d'intérêt en termes de valorisation de l'information.
Je voudrais qu'on termine ces quelques minutes d'entretien sur la nécessité, j'allais dire peut-être même l'ardente obligation aujourd'hui d'avoir une éducation aux médias pour les plus jeunes d'entre nous, et pas que pour les plus jeunes, compte tenu de toutes les évolutions dont on vient de parler là. Bon, est-ce que l'éducation nationale est un peu armée là-dessus et où ça se passe, quoi, cette éducation aux médias?
Je pense que l'éducation nationale a conscience, comme le gouvernement, de cette problématique, qu'elle est vraiment importante aujourd'hui, et qu'elle met des moyens, peut-être insuffisants. Après, sur la question, nous, on en a fait un petit peu, de façon bénévole aussi, avec des adolescents, par exemple, ce dont on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a aussi des a priori dans l'approche de l'éducation aux médias. C'est-à-dire que le fait de dire qu'il faut mieux faire appréhender la qualité de l'information aux jeunes par rapport aux fake news, etc. En fait, les jeunes se démerdent beaucoup mieux que nous pour faire le tri.
Oui, vous pensez, c'est avéré,
enfin,
ça.
En tout cas, c'est notre expérience terrain l'a démontré. Je ne dis pas que c'était un groupe à Saint-Hippolyte-du-Fort, donc c'est un peu le hasard. Et je pense que malgré tout,
ils font la part des choses.
Ils font la part des choses. Ils font la part des choses. Ils ont un rapport, y compris à la question de leur... l'identité, ce qu'ils livrent et ce qu'ils ne livrent pas. Il y a une maîtrise, en fait, qui est tacite.
D'accord. Ils ont appris, eux aussi, à maîtriser leur propre image numérique. Et donc, partant de là, ils décodent...
Ça ne vaut pas pour tout le monde.
Bien sûr.
Mais je pense, pour une grande partie aujourd'hui, c'est
ça,
le
c'est
cas.
C'est plutôt rassurant, a priori.
C'est plutôt rassurant. Après, la question, moi, je pense que... au-delà de cette question-là, l'éducation aux fake news, comme ça se fait beaucoup et ça se reproduit beaucoup, il y a... les questions de l'information, c'est-à-dire comment est produite l'information, par qui, quels sont les systèmes médiatiques, quels sont les pouvoirs qui sont en jeu, ça doit faire partie aussi de l'éducation aux médias si on se situe en tant que citoyen aujourd'hui dans la volonté de faire vivre notre démocratie qui est menacée.
Ok, donc ça fait vraiment partie intégrante de l'éducation, comme effectivement aussi le fait de connaître les institutions, le fonctionnement des institutions, le fonctionnement d'un gouvernement, voire le fonctionnement d'une collectivité dont on sait qu'elle a de multiples compétences.
Sur les collectivités, justement, notre positionnement à nous aussi, il est un petit peu singulier, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur... les politiques sont tous pourris et on n'est pas non plus sur suivre les campagnes électorales. On va s'intéresser à la gouvernance des gens qui sont élus et à partir de là, expliciter aussi les marges de main-d'œuvre réduites que peuvent avoir les collectivités et par ailleurs expliquer aux collectivités que la revendication citoyenne dans les décisions politiques, elle doit se faire entendre.
Eh bien, écoutez, c'est vraiment sur ces mots qu'on va conclure cette émission. Je crois qu'on est raccord. Je pense que les radios associatives aussi essaient de jouer ce rôle-là à leur manière et dans leur spécificité pour les 8 ou 10 radios locales montpelliéraines. Merci d'avoir été des nôtres dans ce numéro consacré à l'économie sociale et solidaire. Rappelez le site internet qui est le vôtre, l'on peut consulter pour aller lire les articles, et je vous y invite, et aussi qu'on peut, sur lequel on peut peut-être trouver l'adresse pour faire des dons.
altermedi.org, merci à vous de nous avoir reçus.
Merci, c'est la fin de ce 10-10. Demain, on se retrouve pour conclure ce mois de l'ESS avec quelques invités. Merci à tous, c'était Yann qui était à la technique aujourd'hui.